Bonsoir Pierre Veil.
Bonsoir Charline. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 18h15, 19h, une semaine en France avec Jean-Marie Rouard de l'Académie française. Il raconte son amitié de près de 50 ans avec Jean d'Ormesson dans un livre qui paraît chez Plon, Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. 19h20, le téléphone sonne. Comment faire reculer le fléau des pensions alimentaires impayées? Les caisses d'allocations familiales peuvent-elles être un intermédiaire efficace comme le souhaite Emmanuel Macron? Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Mais tout de suite, le journal avec Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Il n'aurait pas dû parler d'attaque à la Salpêtrière. Christophe Castaner corrige ses propos 2 jours après l'intrusion de manifestants dans l'hôpital parisien. Mais le ministre de l'Intérieur ne calme pas la bronca. Des parlementaires de tous bords demandent à auditionner le ministre de l'Intérieur. Le chômage à son plus bas depuis 50 ans aux États-Unis. On se demandera si Donald Trump gagne son pari économique. La Thaïlande bouillonne, elle, avant les 3 jours de cérémonie pour le couronnement de son nouveau roi. Rama, 10e du nom. Et avez-vous lu les classiques de la littérature? Ce n'est pas une interro surprise, mais notre prescription culturelle du vendredi soir. De la pluie, du froid et même de la neige, la météo à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
France Inter. Amélie, une affaire qui se gonfle, se dégonfle et devient très politique.
L'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière lors de la manifestation du 1er mai mercredi à Paris. Et ce mot employé le soir même par le ministre de l'Intérieur, une attaque. On a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant, dit le message de Christophe Castaner posté mercredi soir sur son compte Twitter. Depuis, on a visionné les nombreuses vidéos, on a entendu la version des manifestants fuyant les gaz lacrymogènes et les matraques des forces de l'ordre pris dans un mouvement de panique, d'où le mea culpa, ou plutôt la correction apportée aujourd'hui par Christophe Castaner.
J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Je n'aurais pas dû l'employer. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé d'ailleurs par les vidéos qui sont apparues depuis. Mais si l'opposition demande la démission du ministre de l'Intérieur, je pense à Marine Le Pen, je pense à Jean-Luc Mélenchon, il faudrait à peu près changer de ministre de l'Intérieur toutes les semaines. Donc, gardons raison et regardons effectivement ce qui s'est passé. Les faits sont des faits particulièrement préoccupants. Et je pense que nous devrions plutôt parler de cela que de savoir s'il fallait dire attaque ou intrusion violente.
Christophe Castaner, un ministre soutenu par son chef de gouvernement, Édouard Philippe, met sous le feu des attaques de quasiment toutes les oppositions. Ce soir, elle demande des comptes au ministre de l'Intérieur. A-t-il répandu une infox, une fausse nouvelle? Bonsoir Maxence Lambrecht.
Bonsoir.
Des parlementaires réclament une audition de Christophe Castaner, voire une commission d'enquête.
Oui, haro sur le premier flic de France, qui est devenu au fil des mois le bouc émissaire des oppositions. Déjà sous le feu des questions, auditionné au Sénat, mi-mars après les violences des Champs-Élysées, les communistes réclament en effet ce soir une commission d'enquête. Les socialistes, eux, veulent au moins une audition pour marquer le coup et recadrer le ministre, le sénateur Patrick Kanner.
Il y a une enquête qui est en cours, mais c'est le rôle du Parlement, dans sa mission de contrôle de l'action publique, d'aller plus loin dans l'investigation. Le ministre de l'Intérieur, qui est quand même garant de la quiétude des Français, qui est garant quand même de la sûreté de notre pays, ben, ce que nous aimerions, c'est qu'il garde son sang-froid, qu'il soit exemplaire, et qu'il ne dégaine pas plus vite que son ombre.
Qu'il ne dégaine pas plus vite que son ombre. À l'Assemblée, les marcheurs vont bloquer toute demande d'audition. Au Sénat, c'est la droite qui a la majorité, elle ne veut pas trop en faire, il y a donc peu de chance que cette audition ait lieu un jour. Sénateurs et députés auront au moins l'occasion d'interpeller le ministre la semaine prochaine lors des questions au gouvernement et les demandes de démission continueront de fleurir à gauche comme à droite. Nicolas Dupont-Aignan.
Cette affaire est pitoyable. Il y a suffisamment de violence dans notre pays pour ne pas en inventer. Mais ce n'est qu'un mea culpa mitigé. Après tous ces faux pas, son incompétence et cette faute, cette fausse nouvelle répandue volontairement, M. Castaner aurait dû partir, et déjà depuis longtemps d'ailleurs.
S'il y a autant de réactions politiques, autant d'attaques, c'est aussi parce que nous sommes en pleine campagne des européennes et que le moindre faux pas coûte très cher.
Merci Maxence Lambrecht. En tout, après les manifestations du 1er mai, le parquet de Paris a enregistré 322 personnes en garde à vue. Une cinquantaine ont été classées sans suite. 140 personnes environ font l'objet d'un simple rappel à la loi et une cinquantaine passent depuis hier en comparution immédiate devant un tribunal. Le parquet a également ouvert 3 enquêtes contre des policiers. Le premier a été vu en train de lancer un pavé sur des manifestants. Un autre agent a asséné une gifle. Le dernier aurait introduit sa matraque dans le pantalon d'un autre. L'IGPN est saisi de son côté pour des enquêtes administratives. L'Arc de Triomphe, saccagé, lui, lors d'une manifestation de gilets jaunes, sera prêt pour les cérémonies du 8 mai, la semaine prochaine, entièrement restauré. Du mobilier détruit, des œuvres d'art endommagées, des graffitis sur les murs, tout a été remis en état. Les travaux ont coûté autour d'€1,2 million, a précisé le ministre de la Culture, Franck Riester. Paris, où l'on inaugurait aujourd'hui une place en mémoire de 3 journalistes tués en reportage. Ghislaine Dupont, Claude Verlon de RFI, tué au Mali en 2013. Et puis la jeune photojournaliste indépendante Camille Lepage, assassinée en 2014 en Centrafrique. Leurs noms sont désormais inscrits sur une place du 2e arrondissement de la capitale. La cérémonie avait lieu en cette journée mondiale de la liberté de la presse. La date limite est passée pour déposer sa liste pour les élections européennes en France. Les partis avaient jusqu'à 18h. Chaque liste doit être paritaire. 79 candidats, soit le nombre de sièges attribués à la France dans le prochain Parlement européen. Les partis ont désormais 3 semaines pour convaincre jusqu'au vote le 26 mai.
Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis un demi-siècle aux États-Unis.
Le taux est tombé à 3,6% en avril. Les Américains n'avaient pas connu une telle situation depuis décembre 1969. Le président s'appelait alors Lyndon Johnson. Il allait céder la Maison Blanche le mois suivant à Richard Nixon. Le républicain Donald Trump est-il en train de gagner son pari de rendre sa grandeur à l'Amérique ? Make America Great Again, disait son slogan de campagne. Si le président ne boude pas son plaisir, Grégory Phillips, la situation sociale et économique s'avère plus nuancée.
Jobs, 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 réagit dans un tweet le président américain en lettres majuscules et avec un point d'exclamation. Et c'est vrai que Donald Trump a toutes les raisons de se réjouir des chiffres publiés par le département du travail. 263 000 créations d'emplois en avril, les secteurs du bâtiment, de la santé, de l'aide sociale recrutent et le salaire moyen des Américains augmente légèrement de 6 cents par heure. Pourtant, ce taux de chômage à 3,6% ne doit pas faire oublier une autre réalité. Selon le même ministère du Travail, environ 23 millions d'adultes inactifs échappent totalement aux statistiques, ils ne sont pas comptabilisés. L'emploi précaire et intérimaire se développe. Le nombre de travailleurs pauvres aussi, il n'est pas rare ici d'avoir 2 emplois pour boucler les fins de mois. Les seniors de plus de 65 ans, obligés de travailler, sont aussi plus nombreux. Mais ce taux de chômage historiquement bas est évidemment une très bonne nouvelle pour Trump, qui, à 1 an et demi des prochaines élections, peut clamer que sous sa présidence, plus de 4 millions d'emplois ont été créés. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Les conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni en pleine chute, eux, ils perdent au moins 400 sièges aux élections locales. Les Britanniques font payer à leurs dirigeants. Le Brexit, toujours aussi incertain. L'opposition travaillée souffre, elle aussi, du mécontentement et de la frustration des électeurs. Elle perd une 60aine de sièges. On en parle moins, mais l'Algérie continue de manifester tous les vendredis contre ses gouvernants pour la 11e semaine consécutive et juste avant le Ramadan. La contestation ne faiblit pas contre le système Bouteflika un mois après la démission du président. La Thaïlande, elle, se prépare à un événement plus festif, le couronnement de son roi Rama X. Le pays n'avait pas vécu telle cérémonie depuis près de 70 ans. Elles sont prévues sur 3 jours à partir de demain matin. Mais dès aujourd'hui, des milliers de fonctionnaires étaient invités à saluer le roi en route vers son palais. C'est le reportage de notre envoyé spécial à Bangkok, Thibaut Cavaillès.
Il faut l'aimer, son roi, pour l'attendre toute la journée, assis par terre au soleil dans le chaos sonore de Bangkok.
Oui, il fait chaud, mais c'est un devoir pour moi d'être là.
Comme Fon, des milliers d'employés communaux ont été appelés à saluer le cortège royal en direction du palais pour une sorte de pré-cérémonie avant le couronnement. Tous sont vêtus de jaune, c'est la couleur de Rama X. Ils sont rassemblés sur une grande avenue depuis très tôt ce matin. Comme Guy Rapong.
Je suis d'abord allé au bureau, puis on est tous venus ensemble ici. Nous devons lui montrer notre soutien.
Ça n'est pas une obligation, mais un plaisir, une façon de montrer son respect pour le roi. Un ado mange un sandwich à la glace, ça se fait en Thaïlande. Il accompagne sa mère, nous dit-il, et nous assure que lui aussi est venu sans contrainte. 16h, enfin, l'avenue est bouclée, le silence se fait. Les policiers nous tiennent à l'écart, ordre d'ôter lunettes et chapeaux, pas de téléphone tourné en direction de la route. 20 minutes sans pouvoir faire un pas, puis... Des policiers à moto, deux grosses Daimler couleur crème aux allures de Rolls-Royce, des dizaines de Mercedes rouges vifs ou noirs, pas un bruit du côté des spectateurs. Chotika est ravie.
Nous l'avons vu, il était dans la voiture couleur crème, son père avait la même.
La suite sera visible sur l'un des écrans géants disposés là. On y voit le roi brûler un cierge dans le palais. Sur l'avenue, le vacarme reprend. Bangkok, Thibaut Cavaillès, France Inter.
Et les cérémonies de couronnement sont prévues jusqu'à lundi en Thaïlande.
Retour en France, Amélie Perrier, où il ne fait pas bon être un bouquetin aujourd'hui.
Oui, n'imaginez pas qu'ils ont la belle vie à se promener à flanc de montagne, au grand air, car aujourd'hui, la préfecture de Haute-Savoie envisage d'en capturer une cinquantaine dans le massif du Bargy et d'en tuer une vingtaine, porteurs d'une maladie, la brucellose. Les associations de défense des animaux sont vent debout, dénoncent un arrêté préparé sous la pression d'un lobby agricole, ce que dément la préfecture. Les précisions sur place de Marie Ameline.
Ni abattage total du cheptel, comme le réclament toujours les agriculteurs qui craignent la contamination de leurs troupeaux, ni renoncement au tir, comme le veulent les écologistes. Le préfet de Haute-Savoie a choisi imprudente entre deux. On capture d'abord 50 bouquetins dans l'idéal, avec test sur place et euthanasie des animaux séropositifs. Puis, mais seulement si on n'a pas réussi à en attraper 50, les agents de l'ONF en abattront quelques-uns, un maximum de 20, et dans la seule zone centrale du massif, celle du Bargy. Une stratégie guidée par le taux stable, mais encore trop élevé, d'animaux contaminés pour être rassurés, justifie le préfet Pierre Lambert.
Je m'appuie sur un avis autorisé d'experts hein, qui nous disent que si on n'y prend pas garde, la maladie ne va pas disparaître d'elle-même et qu'il nous faut absolument continuer à travailler le sujet le mieux possible, c'est-à-dire avec effectivement le plus grand nombre de captures, de tests et d'euthanasie des animaux malades, mais aussi peut-être des moyens complémentaires que nous nous donnons et qui ont été autorisés, mais dans des proportions tout à fait raisonnables.
Si la météo et surtout la neige annoncée encore pour ce week-end le permettent, les captures devraient commencer dès lundi prochain.
Une fin de saison en enfer pour le PSG. Après avoir échoué en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club parisien va devoir se passer de ses stars. Encore 2 matchs de suspension pour Kylian Mbappé. Il reviendra seulement le 18 mai au Parc des Princes. Et puis une procédure est ouverte contre Neymar à cause de son mauvais geste contre un supporter breton après la défaite en finale de Coupe de France. Notre conseil culturel du vendredi, pour terminer, est une question cette semaine. Avez-vous lu les classiques de la littérature? Ne paniquez pas, Pierre, ce n'est pas un contrôle surprise. Mais le titre de l'ouvrage de Pascal Fray, critique littéraire, et de la dessinatrice Soledad Bravi. Leur talent, c'est de réussir à résumer en quelques vignettes des romans éternels. Ilana Mor-Youssef.
Fini les complexes, grâce à Avez-vous lu les classiques de la littérature, vous êtes équipés pour plonger dans le grand bain. En 2 ou 3 planches à chaque fois, la journaliste Pascal Fray et la dessinatrice Soledad Bravi s'amusent à présenter des monuments de la littérature de façon décalée et pleine d'humour. Elles se sont même mesurées à Proust, raconte Pascal Fray.
Ce qui nous a vraiment fait très plaisir, c'est qu'il y a des gens qui nous ont dit on n'avait jamais osé commencer la recherche et après vous avoir lu, on s'y est mis et on adore ça. Souvent les gens ont peur devant ces livres-là. C'est un peu des espèces de monuments qu'on n'ose pas aborder. L'idée, c'est qu'on fasse un peu des... que les gens, quand ils tournent les pages, se disent « Ah tiens, oui, c'est amusant, on ne s'attendait pas à ça. Voilà. »
Soledad Bravi et Pascal Fray ne se prennent pas pour Lagarde et Michard. Ce n'est pas leur propos. Pas de classement par siècle, aucune prétention à l'exhaustivité, mais une promenade inattendue parmi un choix de classiques.
On a beaucoup d'enseignants qui sont complètement fans et qui ont pris cette méthode-là pour faire travailler leurs élèves. Il y en a qui ont fait travailler des classes entières à la manière de Soledad. Donc ils ont pris un livre, ils l'ont fait résumer à leurs élèves et ils leur ont demandé de dessiner. Ils nous ont envoyé les planches. On pensait que les professeurs allaient peut-être un peu grimacer en trouvant que c'était quand même un peu léger. Et pas du tout, ils ont compris que c'était une manière ludique d'amener à la lecture et à la littérature.
Si on n'a pas lu les classiques, on a envie de les lire. Et si on les a déjà lus, pourquoi se priver de les relire?
Avez-vous lu les classiques de la littérature de Soledad Bravi et Pascal Fray? C'est publié aux éditions Rue de Sèvres.
C'était le journal d'Amélie Perrier. Bon week-end, Amélie.
Merci.
Le ciel dans les prochaines
la
heures.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Les prévisions météo avec Sébastien Léas de Météo France. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Encore une perturbation pour demain?
Oui, une perturbation pluvieuse va glisser assez rapidement du nord vers le sud. En début de journée, on la retrouvera au nord de la Loire jusqu'au Grand Est et au Jura. L'après-midi, cette perturbation va s'étendre du nord de la Nouvelle-Aquitaine au centre-est. Les pluies seront plus régulières sur la partie est de la perturbation. Mais c'est surtout le retour de la neige à très basse altitude qui sera l'élément marquant. On aura même quelques flocons mêlés aux pluies entre l'Aisne, les Ardennes et le plateau lorrain. L'après-midi, il va neigé des 400 mètres sur les Vosges, 600 mètres sur le Jura, 900 mètres sur le Massif central et 1200 mètres sur les Alpes du Nord. Et puis après le passage de la perturbation, les conditions redeviendront changeantes avec de nouvelles averses qui se développeront, s'accompagnant parfois de grésils. Comme aujourd'hui, on aura quand même des éclaircies assez nettes, notamment en Bretagne et Basse-Normandie. Et puis sur le sud du pays, les nuages seront prédominants, parfois porteurs d'averses, mais le pourtour méditerranéen profitera de belles éclaircies tout au long de la journée, sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane.
Et puis Sébastien, une baisse des températures.
Oui, c'est même une chute, d'autant que sur le nord-est, les températures seront plus basses l'après-midi que le matin. À Strasbourg, il fera 6 degrés demain après-midi, alors qu'il fait actuellement 17 degrés. À Metz, on va passer de 16 degrés cet après-midi à 7 degrés demain après-midi. Prévoyez 4 à 11 degrés sur un large quart nord-est, 10 à 17 degrés ailleurs, jusqu'à 18 à 23 degrés autour de la Méditerranée. Et il y aura également beaucoup de vent demain, ce qui va accentuer la fraîcheur.
Sébastien Léas de Météo France.